Bonjour, retour d'Inde, encore tout étourdi, tout secoué de ces deux semaines passées en Inde, dans le Gujarat plus précisément, enfin pas seulement, on est passé par Bombay, on est passé par Bhopal, et puis le Gujarat, et puis Ahmedabad, où on a passé pas mal de temps. Pourquoi ce voyage? Pour la première raison, c'est bientôt du 16 au 21 janvier aura lieu à Bombay le Forum social mondial, et donc ce sera une occasion de parler de l'Inde, de ce sous-continent. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'on dise le sous-continent. C'est vrai que dans nos imaginaires, on a mis ce monde-là entre parenthèses. Et on sera une façon de une occasion de d'évoquer un certain nombre de problèmes que l'Inde est confrontée actuellement, et notamment évidemment les problèmes de la engendrés par la globalisation depuis 91. L'Inde est rentrée dans la dérégulation, et ça produit un certain nombre de conséquences assez préoccupantes, pour pas dire davantage, parfois même terrifiantes, sur la société, sur les sociétés. Pourquoi spécialement l'état du Gujarat, l'état le plus à l'ouest de l'Inde, avec ses 50 millions d'habitants? Eh bien, parce que le Gujarat est pris comme un laboratoire d'un parti, d'un mouvement politique très préoccupant, qui s'appelle le BJP, qui est un parti basé sur un intégrisme religieux, sur l'hindouisme, et qui ne cesse de se développer à travers le pays, et qui est aujourd'hui majoritaire dans cet état du Gujarat. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ans, mars, 1er mars 2002, il y a eu dans cette ville d'Ahmedabad un pogrom tout à fait terrible. Les gens parlent de génocide, le mot était un peu abusif, mais en tout cas il y a eu un pogrom terrible qui a fait 2000 morts, et qui est imputable à ce communalisme. On dit pas communautarisme en Inde, on dit communalisme, c'est-à-dire le développement de partis basé sur une sorte d'ethnisme religieux. Et voilà, ce sera un des sujets qu'on abordera dans les reportages qui commenceront quelques jours avant le forum social. Toute cette semaine, de nouvelles diffusions d'émissions qu'on a aimées cette année, ou que les reporters de la base J'y suis ont aimées, qu'ils ont envie de vous faire réentendre tranquillement dans cette trêve des confiseurs. Et aujourd'hui, c'est un sujet de Thierry Scharf, Metal Europe. Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, Metal Europe.
Flight number 2, arriving from New York.
Même le licenciement, ils n'ont même pas eu l'honnêteté de le dire franchement aux ouvriers. Il a fallu qu'on regarde la 3 pour qu'on dise qu'il y a un dépôt de bilan. Et je trouve ça honteux, honteux.
Qu'est-ce qui est marqué là?
Ici, travailler pour nourrir leur famille, les humains que Glencore a fait disparaître. Glencore, c'était une sans-sujéante. Le 24 février 2003.
Thank you.
tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. C'est un type qui marche tout seul dans une usine en ruine, tout seul et qui gueule. Tous ensemble. Ça pourrait être l'image de cette usine qui est devenue un symbole, c'est-à-dire Metal Europe. Une histoire que nous avons déjà racontée. Ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans que nous avons commencé des reportages sur ces usines qui ferment, sur le désespoir de ceux qui y ont consacré leur vie, sur ces plans sociaux, sur les indignations sincères ou feintes des uns ou des autres, élus, préfets, responsables des ressources humaines, la main sur le cœur, et puis qui, une fois que les ouvriers ont tourné le dos, vous sourient, un peu amusés. C'est un monde ancien. Voilà, c'est terminé, la page est tournée. Nous sommes dans une autre époque, ces gens, hélas. Oh là là, comme ils étaient braves. Appartiennent à un monde à jamais révolué, dans l'usine vide, où on a tout pété, où on a tout cassé, où on a fait un dernier feu d'artifice avec des produits chimiques divers et variés. Eh ben, il y a encore un gars tout seul qui continue de fredonner, de répéter tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. C'est vrai que il faut que les nouvelles guerres, les petites jeunes fraîches et joyeuses prennent leur place. Il faut pas que ce soit toujours au même. N'empêche que celle-là, pour être plus ancienne, n'en a pas pour autant moins de mérite. Vous connaissez, vous vous souvenez de la chanson de Brassens sur la guerre de 14-18. On va donc dans le nord, dans cette usine qui ferme. L'histoire de cette usine Metal Europe, vous la connaissez. Pendant un siècle, cette usine a pollué terriblement la région sur un espace de 45 kilomètres carrés. Mais il y a toujours eu, au moins dans les dernières décennies, un conflit entre la pollution et l'emploi. Aujourd'hui, c'est terminé. Pour les emplois, c'est terminé. Pour la pollution, ça reste. La question, c'est qui paiera ? Et on connaît la devise, les bénéfices sont privés et les déficits sont publics. Le public, c'est nous, les privés sont partis, le gouvernement s'est indigné, a parlé de patrons voyous et de choses bien indignes, indignation qui est allée droit au cœur de certains, mais pas des autres. Et c'est quand même plutôt avec ces autres qu'on va passer cette heure. La dernière heure est arrivée à Metal Europe. Et plus que des commentaires, des indignations provisoires et éphémères, c'est dans les mots, des Metal Europe qu'on va aujourd'hui. Thierry Scharf a passé des heures avec ses derniers héros de la classe ouvrière.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ?
Non, c'est les sorties.
Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé.
C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ?
Oui, monsieur. Oui.
Alors, au boulot et un peu vite !
Ah, vous êtes en habit de pompier, là ?
Eh oui.
Ouais.
On est
pour
prêt.
Éteindre le feu ?
Voilà.
Ouais.
Johnny l'a allumé, nous on l'éteint. C'est normal, hein, s'ils allument le feu, nous on va l'éteindre. Hein, c'est...
Il y a tous les camions qui sont sortis, là, il y a des lances à incendie là, qui crachent de la flotte.
Les CRS, ils vont arriver, alors on est prêts.
Ouais.
S'ils veulent nous mettre dehors, et bah, vous voyez, ils vont être reçus là. Mais bien.
Vous attendez les CRS?
Bah apparemment oui, on entend pied ferme même. Ils peuvent venir, ils nous font pas peur. Hein, c'est pas... Déjà à Paris, on avait été agressé par eux. Hein. À Lens, c'est pareil. Hein, quand on était devant la préfecture, je sais pas si vous y étiez, mais vous avez bien vu que c'est les CRS qu'ils ont chargé, alors qu'il y a eu bon, une bousculade, il n'y avait rien eu de... Donc maintenant, on s'entend tout avec eux.
Alors comment vous allez vous y prendre là?
Là, on les entend avec des pinceaux de sodium, on va mouiller tout et puis s'ils viennent, on jettera des pinceaux de sodium et puis ça fera des bombes. Et puis,
voilà. Pain de sodium?
Ouais, ouais.
Explosif. Ça fait quoi un pain de sodium?
Explosif. Voilà. Ça explose. On jette dans l'eau et puis ça explose. Les troupes à Sarkozy arrivent, ben, c'est la guerre, c'est tout.
Ils n'auront pas notre usine. On la garde, on est maître. On va la garder. C'est certain.
C'est vrai, vous êtes prêt à aller jusqu'où quand même?
On est déterminé. Et rien ne nous arrêtera. On a travaillé, moi ça fait 20 ans que je travaille là, mon camarade ça fait combien? 22 ans. 22 ans, c'est notre usine. Nos parents, nos grands-pères, ils ont travaillé là, c'est notre usine. Vous savez, on est un peu comme les mineurs, hein. On va défendre jusqu'au bout.
Et vos parents, vos grands-parents ont bossé ici à Metal Europe?
Oui, oui, mon père a travaillé, bah, nos pères, ils ont travaillé ici, travaillé, mon grand-père. Ouais. On travaillait de père en fils, hein. C'était comme ça ici. Hein. C'était... Donc déjà, bon, même les vieux qui viennent ici, ils sont un peu déçus parce que non seulement ils ont cassé l'usine, mais ils ont cassé aussi leur boulot. Hein, parce qu'eux, ils ont vécu pour faire vivre cette entreprise. Et là, qu'on vienne la casser par des gens, j'irais, envoyés par le gouvernement américain, bah, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire GEM+, tout ça, c'est la même histoire. Ils ne déclarent pas la guerre à l'Irak, ils déclarent aussi une guerre à l'Europe, mais une guerre économique. Donc ils viennent fermer nos entreprises. Donc ils envoient des cadres américains, ils viennent piller notre patrimoine, tout ça, et après ils viennent de la fermer l'entreprise. C'est notre gagne-pain, enfin, c'était notre gagne-pain, et puis voilà, ils ont pillé l'usine.
Un germinal en 2003, c'est ce qu'on a dit sur cette usine Metal Europe de Noyelles-Godault, dont la fermeture brusquement annoncée a surpris tout le monde. Il faut voir tout le monde, quand on dit tout le monde, on s'y attendait quand même depuis un certain temps, disent les uns, les autres ont été surpris. Cette fermeture vient évidemment dans le cadre d'un ensemble de ce qu'on appelle prudemment des plans sociaux, comme on parle de dommages collatéraux. C'est un peu le même système d'euphémisme pour dire que on jette les gens dehors dès lors qu'on en a plus besoin. Les ouvriers le disent très clairement, très crûment, avec le poids du temps et de l'histoire. Noyelles-Godault Metal Europe produit du plomb et du zinc depuis un siècle, et très souvent on est dans le nord, on n'est pas très loin de Lens, les ouvriers tout de suite, vous avez vu, il y a une affaire de mon père, mon grand-père, etc., sont souvent eux-mêmes des descendants des mineurs. C'est effectivement un peu les mêmes familles, la même culture, et il y a une parenté entre ces deux activités. Alors c'est vrai que l'usine est un monstre sorti de la pire monstruosité de l'histoire industrielle. N'empêche que la brutalité avec laquelle l'usine est fermée montre bien le cynisme absolu de ceux qui en profitent. On peut vraiment parler de profit pur et simple, de barbarie capitaliste en l'occurrence, avec des pouvoirs publics qui sont absolument indignés à la façon dont Tartuffe pouvait l'être.
Vous êtes député, vous êtes président de l'agglomération du coin ici. Comment vous prenez ça, là, Metal Europe?
Écoutez, Metal Europe, je le prends mal, parce que ça a été une liquidation rapide, où on met les gens à la porte, et on les jette.
Albert Facon, député PS.
En janvier, les actionnaires, notamment Glencore, ont décidé de se désolidariser financièrement de la filiale Metal Europe Nord. Je savais très bien qu'on allait sur la liquidation. Et il n'y avait aucun problème là-dessus. Et pourquoi Glencore l'a fait? Parce que sont des voyous, sont des gens qui ont dépecé ici Metal Europe Nord, qui sont en train de dépecer Metal Europe SA et qui se sont permis de voler tout le patrimoine, de le rapatrier ailleurs. Ils étaient fournisseurs, clients ici, donc normalement c'est eux qui dirigeaient Metal Europe Nord. Qui plus est, il faut savoir que ces gens sont basés en Suisse, dans le canton de Zouk, qu'ils ont procédé à une vente d'une usine de Metal Europe en Allemagne, Notre-Dame, pour 100 millions de dollars, et qui se l'ont fait racheter par une de leurs sociétés. C'est ce qu'on appelle vraiment de l'arnaque financière. Que l'État nous ait promis qu'ils aient déposé plainte, ça mettra du temps, des années, parce que ces requins-là ont les moyens de se payer des avocats. Les gens de Glencore sont des gens qui sont partout. Partout, on les retrouve dans le prestige, on les retrouve partout au niveau des matières premières.
Vous vous sentez impuissant en fait.
On se sent, nous les élus, impuissants, mais le gouvernement se sent aussi impuissant. Toutes ces familles où ces gens n'avaient que pour vivre que leur salaire, c'est-à-dire dans 2 mois, ils n'ont plus rien qui va nourrir leurs enfants avec une perspective de retrouver un emploi qui est minime. C'est tragique.
Alors mesdames, on s'est rué des sandwichs avec des masques à gaz.
Ouais. Parce que l'État était prêt à tout. Hein. En traite, ça va nous prendre. Donc ben, nous aussi, on va déjà commencer à se préparer pour se battre.
Alors là, on est dans le réfectoire. C'était le réfectoire ici de l'usine.
C'est le réfectoire où on servait des boissons chaudes, tout ça pour encourager nos maris. Moi, je viens ici après pour aider justement ces gens-là.
Vous aussi?
Non, c'est mon père qui travaille ici.
C'est notre boîte à nous maintenant.
Oui, c'est plus Metal Europe. Le réfectoire appartient aux ouvriers.
Maintenant, après ce qui s'est passé ce matin, c'est à nous la boîte. Nous, on la tient. On la tiendra longtemps.
Mais de toute façon, il ne nous reste plus que ça. Donc, on n'a pas le choix. Hein. Il reste que la cantine.
Il nous a tout pris.
Ouais.
Sans rien nous demander, bien sûr. Hein. Même le licenciement, ils n'ont même pas eu l'honnêteté de le dire. Franchement, aux ouvriers, il a fallu qu'on regarde la 3 pour qu'on dise qu'il y a un dépôt de bilan. Mais je trouve ça honteux. Honteux.
Alors, là, votre façon à vous d'aider, là, les femmes, c'est de faire des sandwichs, de servir, à manger.
C'est d'être solidaire avec nos maris, amis, avec les ouvriers. Parce qu'on est aussi concerné qu'un ouvrier.
C'est vous qui avez marqué la banderole, là, au-dessus?
Oui. Hein,
au-dessus du self, là?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez marqué?
Courage, les mecs. Les femmes sont avec vous. Et aujourd'hui, on est avec eux. Et on se battra jusqu'au bout.
Ça fait déjà un mois et demi que ça dure, comme ça?
Ça fait un mois et demi qu'on est là, avec eux. On est fatigué aussi, mais on est là. Parce qu'on a la maison, on a les enfants, on a quand même nos soucis sur le côté, on a nos travails, mais on est avec eux quand même. Moi, je dis 850 plus 850 femmes, c'est une force. Eux emploient la force, nous, on va employer la force. Et la force d'une femme, c'est quand même plus terrible que celle d'un homme.
Ah bon? Pourquoi?
Les femmes sont plus méchantes.
Plus méchantes,
parce que nous, on ne se laissera pas voir comme... Les hommes ont peut-être baissé un petit peu les bras, mais nous, on ne les baissera pas. Même s'il faut y aller en avant, j'irai en avant. Ah ouais, moi j'ai plus peur de tout ça, j'ai tout perdu. Alors pourquoi pas? Vous savez, l'État aujourd'hui ferme ses yeux. L'État ferme ses yeux. Il allait intervenir Chirac. Raffarin devait intervenir. Vous les avez vus, vous? Rien. On leur a envoyé un livre avec une signature, avec une lettre de désespoir. On vous a répondu, vous? Non. Et non, qu'est-ce que c'est que 830 ouvriers? Parce qu'on y en a à foutre, lui, de ces 830 ouvriers. Ah, les boulettes, il y a des sous pour les boulettes, hein? Quand on voit tout l'argent qu'investi pour les plages polluées, pour aider les pays voisins, hein, entre parenthèses, on va pas être raciste, mais quand même, hein, on va le finir par l'y être, parce que le français, il y a rien, toutes les usines françaises ferment aujourd'hui. Alors pourquoi que l'étranger? Nous aussi, on a besoin d'être aidés. Et ça, c'est une chose qui me révolte.
Il n'y a plus rien autour de nous, hein.
Oui, il n'y a plus personne qui nous aide, on n'a plus de parole de grand, de quelqu'un qui peut nous donner quelque chose. On est qu'ouvriers, on est seuls dans notre lutte. Moi, je sais honteux de la façon qu'ils ont licencié nos maris. Être mis en pré-retraite et rien à voir, alors qu'ils ont travaillé plus de 40 ans dans leur boutique, ben, je trouve ça désolant. Désolant. Aujourd'hui, moi, je vais peut-être partir avec quoi ? Sac, petit bâton ? Et je fais quoi, moi ? Comment je paye ma maison ? Comment je fais pour les études de mon garçon ? Je fais quoi, moi ? Je vends, je peux même pas vendre ma maison, je suis dans un pig. Parce qu'ils nous ont corrompu ça.
Dans un quoi ?
Dans un pig, ça veut dire que ma maison, le terrain est pollué, donc je ne peux pas vendre ma maison.
Vous appelez ça un pig ?
Oui. Un pig pour eux, ils expliquaient que c'est la pollution, c'est la terre qui est polluée. Donc, on est dans une région où on devrait, un certain périmètre, où on doit enlever de la terre pour pouvoir dépolluer. Voilà, en plus. Donc, je peux pas vendre ma maison. Je pourrais pas payer ma maison. Je pourrais pas vendre ma maison. Ben, voilà. Voilà. Moi, j'ai plus qu'à une corde à me mettre à mon cou.
Oui, parce que c'est pas seulement 830 ouvriers qui sont brutalement sur le carreau. C'est aussi, par exemple, 260 enfants qui présentent des taux anormaux de sang, de présence de substances dues au rejet massif de cadmium et de plomb pendant plus d'un siècle. Et ce que dit cette ouvrière, c'est qu'effectivement le sol est pollué à raison de 45 km² autour de cette usine qui est classée à haut risque, c'est risque Seveso 2. Il y a 672 usines qui sont classées dans la même catégorie. Metal Europe était la plus grosse fonderie d'Europe. Et on peut vraiment parler d'une pollution historique. Alors, il faut savoir que Metal Europe agit actuellement de la même façon partout en Europe, en Espagne, en Allemagne, on délocalise de cette façon-là pour installer d'autres usines, par exemple au Brésil. Tiens, voilà, il y a. C'est quand même moins cher et on peut polluer encore tranquillement jusqu'où, ben, une fois que le Brésil se ressaisira, ben, on ira polluer ailleurs et on trouvera de la main d'œuvre corvéable et docile exploitable plus loin. C'est pas un problème. La question sur, au-delà évidemment des indemnisations de ces ouvriers, c'est aussi qui va dépolluer, parce que les politiques environnementales des gouvernements sont soumises, fortement soumises, aux pressions des lobbies industriels, et dans ce domaine de la pollution, la juridiction est loin d'être tout à fait claire, surtout au niveau européen.
Vous êtes en bleu là, je vois que vous avez un masque à gaz à la main là. Vous vous apprêtez à faire quoi là ?
Bah, c'est juste une protection au cas où.
Au cas où quoi ?
En cas où, en cas où qu'on essaye de. Enfin, que certaines personnes essayent de rentrer dans l'usine.
Ouais.
Donc, c'est juste une protection.
Ouais.
Donc, on a un peu anticipé
ce problème là quoi. On peut se pousser un peu de la lampe à incendie là, parce que j'ai l'impression qu'on va se reprendre une giclée dans pas longtemps là.
C'est de l'eau.
Ouais, c'est de l'eau, ça va.
Donc bon, ici c'est pas une usine où on fabrique du chocolat aussi, hein, ça c'est clair, donc bon, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de produits.
Mais bon, vous avez quel âge?
32 ans. 32 ans, ça fait 12 ans que je suis ici.
Ouais, vous avez 20 ans.
À 20 ans, donc c'est sûr que bon, en faisant 2 du matin, 2 de l'après-midi, 2 de nuit, je veux dire, on est déréglé déjà. Et là, on a pris du plomb à tirer l'arigot. Et bon, ils veulent nous laisser partir comme ça, sans rien.
Vous êtes plombé, vous ?
Moi, 50%. 50%.
La vache. Ça veut dire quoi en termes de quantité ?
50 microgrammes. Mais bon, j'ai toujours resté à ce taux-là. Même moi, je trouve aberrant qu'ils laissent partir les gens. Je leur dis, c'est une usine où on fabrique du chocolat, donc c'est un peu dégueulasse aussi. Je veux dire, ils nous laissent partir comme ça, avec du plomb dans le sang, sans rien. On est déjà déréglé. Bon, c'est vrai que le plomb aussi il tape à forte dose sur le système nerveux aussi. Hein. Si on en a plus, ça vient se mettre sur les os. Puis ils nous laissent partir comme ça. Je sais pas. Je sais pas quelle politique. C'est dégueulasse.
On connaît les enjeux de cette bataille et à partir de là, ne comptons pas les absents, comptons sur tous les présents et faisons en sorte que tous ceux qui sont sur le site soient utiles pour cette bataille. Glencore ou la responsabilité des pouvoirs publics de Glencore et Metal Europe SA sont encore à prendre en compte. Voilà le message qui m'avait changé de bouton.
Tu vas faire la G là ?
Ouais.
Donc on allume la sono.
Bah, comme tous les matins.
Tous les matins. Voilà, on est dans le réfectoire, tout le monde sur sa petite chaise.
Le problème au matin, c'est que bah, les gens attendent des nouvelles. Pour l'instant, il n'y en a pas. Attendent de ce qui va être ce qui est prévu. Malheureusement, on peut pas tout prévoir, notamment au niveau mobilisation, parce que ça devient de plus en plus difficile à mobiliser, je vois. Si tout le monde était là, on ne devrait même pas arriver à remplir la salle.
T'étais un leader syndical avant, ce qui s'est passé là.
Tu dois être disposé pour ça parce que déjà au lycée, quand il y a eu la fraude entre guillemets contre Devaquet, j'étais déjà en tête de file dans mon lycée. Alors,
ah ouais,
c'est des histoires qui se répètent. Depuis 6 ans, je suis devenu secrétaire du syndicat. Et puis là, voilà, quand la situation s'est déclenchée, c'est venu naturellement.
T'es en train de me parler et je vois derrière, là, il y a une photocopie avec ta photo. Affiché sur le mur et il y a marqué Farid présidente. C'est une vraie vedette, hein.
Ouais, mais ça, c'est encore un petit tour qui m'a été joué par ceux qui étaient de service cette nuit.
Ah ouais. Il monte sur sa chaise.
Vous pouvez faire rentrer ceux qui sont dehors. Donc on dirait qu'ils n'ont pas entendu.
C'est devenu une vraie vedette, hein, Farid là. Hein.
Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est j'espère que ça va être un héros, quoi.
Ça va être quoi?
L'héros de la boîte, quoi.
Le héros.
C'est un sauveur, quoi. On compte pratiquement tous sur lui, quoi.
Bon, bonjour à tous. Alors, on tient compte ce soir. On a déploré encore ce matin des vols et des dégâts au CEM. Ça a été littéralement saccagé. Alors, je pose la question. On a pris ensemble la décision de barrer tous les accès pour éviter le pillage du site et donner une chance à une reprise partielle d'une activité, parce qu'on a besoin des infrastructures et des outils. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous, on va dehors et je mets les CRS à l'intérieur? Parce que là, c'est déplorable.
On connaît les trois attitudes face à l'obstacle, la fuite, la lutte ou l'autodestruction. Et ce qu'on observe dans cette usine Metal Europe à Noyelles-Godault, c'est la destruction, c'est l'autodestruction. Une partie des personnels s'en prennent à leurs propres outils, au matériel qui est là et le détruit. C'est pas un pillage intéressé pour piquer des trucs et aller les revendre, etc. Non, c'est une destruction. Et ça c'est vraiment, vraiment des signes de désespoir. Quand les femmes disaient tout à l'heure « on n'a plus rien à perdre », c'est la vérité. Et je crois qu'il faut faire très, très attention. On sait qu'il faut faire très, très attention lorsque des gens n'ont plus rien à perdre. On a vu ça, par exemple, en Albanie, comment après la chute du dictateur, les Albanais ont détruit leur propre pays. Leur propre pays, y compris les biens communs, y compris les choses, je sais pas, des écoles, des hôpitaux. Ils s'en sont pris à eux-mêmes. Et on trouve dans c'est pas la première fois qu'on observe ça, des expressions, parce qu'il s'agit d'expressions semblables, des expressions de désespoir qui vont sur des actions violentes, de pollution, etc., qui se multiplient, ou d'explosions. Enfin, il y a quelque chose d'absolument désespéré, il y a une souffrance très très grande qui s'exprime là, qui se multiplie et qui va aller en augmentant. Il y a une autre guerre.
T'as quel âge, toi?
36 ans dans deux jours. Moi, ça fait 15 ans que je fais l'usine. 3 ans intérimaire et le reste embauché. Je suis né à Donna.
C'est les parents qui venaient de quel coin?
Maroc.
Maroc, ouais. Ton père est venu pour quoi?
Il est venu pour
dans la région.
Ouais, ouais. Ouais, donc dans les
où
mines.
Ça? Dans les mines.
Ouais.
Donc t'es un fils de mineur, quoi.
Ouais. Fils de mineur. J'ai vécu aussi, étant de Donna, la fermeture d'usine d'or. usineur.
Farid Rameau.
Avec l'impact, l'impact social et économique que ça a eu. Alors, malgré mon jeune âge à l'époque, on se rend compte quand même des choses. Ah bah puis je vois que c'est partout pareil quoi, et
ça continue quoi.
Ce qui va se passer là, c'est je vais revoir avec d'autres yeux peut-être parce que je suis plus impliqué, mais ce que j'ai vu sur Donat avec la fermeture d'usineur quoi. Donc si je dois même passer les nuits, j'ai déjà fait pendant les conflits, même si ça durait 6-7 jours, j'étais 24 heures sur 24 ici, en voyant tous les gars derrière moi, ça me donne du courage. Donc même si je dors que 2-3 heures par nuit, j'en ai assez pour me reposer, ça va.
Comment tu vois ce qui vous arrive là? Comment tu prends ça, toi?
Bah malheureusement, moi j'y étais un petit peu préparé parce que dans la CGT, dans le stage syndicaux, c'est la base de notre formation. On sait ce que c'est que le capitalisme, on savait ce qu'allait donner la mondialisation. Donc c'est bah, et puis on en est à des exemples. Parce qu'on parle de Metal Europe comme un symbole, mais on est un des exemples flagrants de
la mondialisation.
Bah oui, tout à fait. Quand on voit un Glencore qui a un groupe suisse, qui a été fondé par un Merckrich américain, et pourtant on s'est tout le temps dit entreprise française. Pourtant, en gros, c'est pas des Français qui tirent les ficelles. Donc, si ça, c'est pas un exemple de la mondialisation, et puis ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas un exemple des risques. On voit ça malheureusement de plus en plus.
Depuis le début là du conflit, là, quand vous essayez de vous adresser à vos patrons, qui vous rencontrez, qui vous avez comme interlocuteur?
Malheureusement, on a personne. Ici, localement, on a un président de site, Monsieur Ferrer, qui est, j'irais aussi perdu que nous, qui est même déjà virtuellement viré, parce que si j'ai bien compris, il n'y a plus le titre de président depuis le 1er février, et je crois que même sa paye n'a pas été assurée pour le 1er février.
Donc c'est compliqué, il n'y a plus le méchant patron qui est dans l'immeuble du bout, là, dans son bureau.
Qui trône dans son fauteuil, qu'on séquestre même des fois. Là, c'est même pas la peine de séquestrer, il ne peut rien faire le malheureux.
Et ça devient virtuel, là, vous êtes là.
Ça devient virtuel. On a été le mois dernier à Paris, au siège. Pour voir le PDG, on se dit on va avoir un interlocuteur devant nous, bah la même chose. Il y avait personne, il y avait plus rien du tout. Les bureaux étaient vidés. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que notre interlocuteur c'est le pouvoir public parce qu'ils sont obligés de substituer à l'employeur parce qu'il y a plus personne. Ouais. Allô.
Oui. Nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. Comme un problème permanent. Comme un problème permanent.
Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'un fois 800-900 bonhommes, tandis que vous avez des usines qui emploient 60-70 bonhommes.
En permanence, on devra veiller.
Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de
ce que l'emploi soit assuré aux Français.
Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Nous serons donc en risque permanent.
Première question. À qui appartiennent les usines? À qui appartiennent les usines?
Baron Rothschild.
Le baron Rothschild. Dassault. Jean Prouveau.
Depuis le milieu des années 60, productivité accrue, accélération des cadences.
Deuxième question.
Depuis le milieu des
qui
années 60,
crée dans ces usines des laboratoires, des ateliers, la richesse, les travailleurs? Troisième question. Qui en profite? Une poignée d'exploiteurs. Les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. Mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes.
Maintenant, une famille ici qui a travaillé. J'ai travaillé encore dans les vieux Fourazac, ils étaient là derrière. Moi, j'ai arrivé ici, j'ai vu tomber le dernier cheminée.
Tu vois pas. Ouais.
J'avais 15 ans quand j'ai commencé ici.
15 ans?
15 ans et demi quand j'ai commencé. J'ai 51 ans, fêté le total. 35 ans. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai quoi comme formation? J'ai les formations d'ici, c'est tout. C'est tout? Et ils sont valables nulle part ailleurs. Enfin, c'est tout. Ce que je veux faire d'autre. Alors.
Et toute la famille est aussi ici.
Ouais. Pratiquement. J'ai eu des oncles, mon grand-père. Après, j'ai eu mon père. Mon père, il a fait 40 ans. Mon frère, il a fait un peu moins. Il est parti chez Peugeot. Puis moi, j'ai resté. Voilà. Et puis, à plus, user santé.
À user la santé,
ouais. Ouais, parce que je suis en maladie professionnelle.
Ouais.
Mais invalide, hein.
Invalide.
Pas comme certains qui sont en maladie professionnelle. Moi, j'ai une sur-maladie professionnelle, mais invalide, avec un taux d'incapacité de travail.
À cause de quoi?
Du plomb.
D'être plombé, quoi.
40% d'invalidité. Et toujours obligé de travailler au plomb.
Ouais, mais pas pour dire qu'ici, sur 830, on est 830 plombés, on n'est pas tous malades et invalides. C'est pas parce qu'il y a qu'un cas, en fonction de deux personnes. Tout le monde n'est pas pareil, quoi. Il y a eu des super plombés à 80%, ils sont pas malades ni invalides pour autant, quoi.
Parce qu'il faut pas écouter qu'une personne.
C'est vrai qu'elle est invalide, mais après ça roule, et puis c'est 830 mecs qui sont débiles, et puis, comme on a entendu, quoi. Sans plomber et débiles, il faut arrêter les conneries. Hein.
Ouais, après
120 ans que ça existe, il y a encore personne qui est mort du plomb.
Pas mort du plomb, mais c'est quand même, on n'en est pas loin, puisqu'il y a 260 enfants qui sont frappés de saturnisme, évidemment, mais on préfère plutôt plomber que virer. Et c'est pas un petit malheur local qu'on est en train de décrire, c'est pas une petite catastrophe, un petit accident industriel circonscrit. Tout ça, je le répète, fabrique de la souffrance et donc de la violence que les uns retournent contre eux-mêmes, les autres essayent de propulser à l'extérieur, mais vers quoi, vers quelle lutte, quelle forme le sentiment de révolte et d'abandon peut prendre. Il y a aussi l'affaire des enfants, la perte d'emploi, c'est aussi la perte de soi. C'est pas seulement des affaires de salaire, il y a beaucoup plus que ça dans des vies entières passées dans des entreprises. Et il y a ce qui éclaire souvent ces vies, c'est les enfants vivront mieux que nous. Il y a un devenir. Nous on en bave, mais pour les mômes ce sera mieux. Mais quand soudain, il faut rentrer à la maison et puis faire comprendre aux enfants qu'on n'a plus de boulot, c'est un déshonneur. Ça marche encore, ça. La dignité, la vie qui finalement, au fond, vaut beaucoup plus que les profits.
Christian, vous êtes malade aujourd'hui.
Ouais.
Et
ouais.
Vous continuez à travailler ou pas du tout?
Si, j'étais complètement. J'ai toujours travaillé. On m'a jamais dit quoi que ce soit. J'ai des séquelles.
Regardez les mains.
Regarde mes doigts. Bon, tes doigts, ils sont droits.
Ouais. Ouais.
Regarde les mains.
Ah, ils sont tout obliques.
C'est bouffé par le plomb. Tout ça, c'est bouffé. C'est des articulations. On appelle ça une polynévrite. Ouais, c'est du saturnisme. La maladie professionnelle numéro 1. Dans le truc de la sécurité sociale. Ben alors ça, pour se faire reconnaître, c'est autre chose. Hein. C'est pour ça que les collègues disent ça. Mais tous, ils sont tous peut-être plus ou moins de plomb. Bon, ils ont peut-être plus ou moins de séquelles, mais la sécurité sociale ne veut rien savoir. Ils ne veulent pas les reconnaître. Aucun. J'ai mes genoux, j'ai du mal à marcher, et puis je me sens pas trop bien, quoi. Il y a que ça. C'est comme si tu aurais de l'arthrose en continu. Et tu peux plus serrer comme il faut, tes mains, tes doigts, ils lâchent, quoi, si t'es mieux par moment. Souffre-douleur. Voilà. Alors j'espérais encore faire 5 ans. Et je crois qu'on est mal barré.
Hein. Je crois aussi, ouais.
Voilà. Alors maintenant, tout ce qu'on souhaite, c'est le plan social. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Mais maintenant, 51 ans, qu'est-ce que je dois faire? Alors voilà, un chômeur en puissance. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, là? J'espère que Raffarin, il fera quelque chose pour nous. Enfin, j'espère.
Ta femme, elle travaille?
Non. Non. Attends, non, ça va, ça suffit. Non. On a travaillé dans le temps. Maintenant, elle ne travaille plus. Il me reste encore un fils de 18 ans, et puis ma fille, 15 ans.
Ah ouais. Là, le dimanche arrivé, toutes ces filles s'en vont danser. Là, le dimanche arrivé, toutes ces filles s'en vont danser. La minuit arrivée, elle demande pour que je vole la remener. La minuit arrivée, et demain pour que je vois l'emmener. Mais si je t'emmène, c'est pas pour rien. Dans ce code bleu, t'y vas y aller. Mais si je t'emmène, c'est pas pour rien. Dans ce code bleu, t'y vas y aller. Arrivé à ce code bleu, est-ce qu'on m'a seul déculotté? Arrivé à ce code bleu, est-ce qu'on m'a seul déculotté? Atikatas, Atikatas. Et ne t'occupe pas de ch'ti qui passe. Atikatas, Atikatas. Et ne t'occupe pas de ch'ti qui passe.
Il fut un temps, on venait par plaisir. Je t'assure, je venais travailler par plaisir. Parce qu'on arrivait, on rigolait. Dimanche, tout va. Moi, j'ai fait, là, les dernières années, j'ai fait Noël, Nouvel An. J'ai fait 98, 99, 2000, 2001, 2002. Tout, à chaque fois. Et à chaque fois de nuit. Alors que j'ai jamais passé un réveillon avec les enfants, ni rien, parce que j'étais toujours de nuit. Bon, ça m'embêtait de partir de la maison. Mais en arrivé ici, c'est pas la fête, hein, mais on était bien, quoi, on rigolait. Là, quand c'était le jour de Saint-Éloi, les bouteilles, elles étaient l'une à côté de l'autre, jusqu'au bout. Mais personne dit, c'était toléré. Bon, c'était notre fête, c'était vraiment la Saint-Éloi. Même les ingénieurs, ils buvaient le coup avec nous et tout ça. Tous. C'était l'époque, c'était comme ça.
Qu'est-ce qu'elle va dire, mère? Ma jupe aurait tout chiffonné. Qu'est-ce qu'elle va dire, mère? Ma jupe aurait tout chiffonné. T'es il ira chez ton amoureux qui a voulu y mettre est-ce que. T'es il ira chez ton amoureux qui a voulu y mettre est-ce que. Arrivé à ce maison, elle commence à avoir des coups de bâton. Arrivé à ce maison, elle commence à avoir des coups de bâton. Aïe aïe papa, aïe aïe maman, des bites que je n'aurais pu. Il faut pas les passer. Hein. Aïe aïe papa, aïe aïe maman, des bites que je n'aurais pu.
Moi, j'ai connu 68 ici. Ah ouais, bah, faut voir. Hein. C'était pas des trucs comme à l'heure actuelle. Hein. Les vieux, là, ils doivent se retourner dans les tombes. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Parce qu'il y aurait une révolution. C'est gentil ce qu'on fait, là. C'est gentil, on fait rien, là. On bouge pas, on fait rien. Mais là, les vieux, mais il y a longtemps qu'ils auraient tout retourné. Ils auraient tout retourné. C'est sûr et certain, ça. Ça, c'est sûr, les vieux, il y a un truc comme ça. Bon, faut voir, les gars, il fallait pas les emmerder. Hein. Ça bougeait. Hein. C'était faisait un peu comme les mines, quoi. C'était le même truc. Voilà. Ça serait passé comme là, comme en 68, mon Dieu. Mais il y aurait une révolution. Hein. Ah ouais, ils n'auraient rien cassé. Hein. Déjà, tout ce qui se passe là maintenant, là, vous avez vu, là, tout est démoli dans les ateliers, tout ça. Ça serait pas passé, ça. C'est pas vrai. Jamais. On n'aurait jamais toléré un truc pareil. Jamais. Il y a eu trop de laisser-aller. Bon, on sentait qu'un jour ou l'autre, ça allait se terminer. Parce qu'on savait, mais on croyait pas comme ça. Pas comme ça. Bon, la pollution, c'est sûr que c'est un truc aussi, c'est un fait. Mais on savait que... On s'attendait, mais... Pas comme ça. On croyait, tu vois, comme il y avait prévu, avec 260 licenciements à peu près au départ là. Hein, c'était prévu. Bon, peut-être j'étais dedans, peut-être j'étais pas. Je sais pas. Hein, on sait pas. On savait pas les noms, on savait rien. Mais ça serait parti tout doucement. Hein, on aurait éliminé comme ça tout doucement en expliquant les choses ou peu importe. Et puis peut-être les gars seraient partis avec un bon plan social ou un truc comme ça. Peut-être que ça aurait passé mieux. La pilule aurait été peut-être moins dure à passer que là, comme ça, un truc comme ça. Et puis alors les mecs qui se sont tous barrés, là, qu'on sait même plus où ils ont les sous. Oh non, il faut pas rêver.
Lâchez coron, cœur mu, ménage. Les mineurs viennent d'avoir leur congé. Prennent leur valise et partent voyager à la campagne, ouvrir leur paraté. Mis comme mes autres, je prends mes bagages. Et je m'avance, mais je quitte pas ma patelin. Je vaux du pays, v'là de manière que je m'y prends. Sans débourser un sous-train. Et je passe mes vacances tout en haut des chéris. J'ai tout dit de la chance, le terrain y est jamais pris. Je monte une toilette tant que je vis tout seul et je m'arrache. Et si fais-je rire, je campe et suis heureux de faire du campache. Je me fais la popote et je vis pas mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime trop à Chambéry. Mais je suis qu'au fait tout en haut des chéris.
Alors pendant 30 ans, le mineur campeur, il ne quitte pas sa chère Thierry. Même passionné, il y va comme au passé. Seulement, aujourd'hui, il est malade. Il faut se l'user. Il est dans sa lit. Et les larmes aux yeux, en ravisant à travers un carreau, il dit tout bas.
Comme ça va vite, comme le temps passe. Au Thierry, j'ai campé maltes années. Acheteur, il faut l'abandonner. Je ne suis plus qu'un vieux mineur passionné. Et je n'ai plus que des hoches d'âme carcasse. Suis vieilli, mes gants sont ramollis. Et de me faire niette en étant dans ma lit. À travisant, j'ai dit c'est fini. Je ne montrerai plus jamais tout à haut des chéris. Fini désormais, le médecin je l'ai bien compris. Par 40 ans de fond, mes poumons y ont qu'être cosse. Plein de poussière et de carbone, un appel chat, la silicose. C'est bateau ma tour, et de partir comme tant de vieux. Et de faire un long séjour, là auprès du bon Dieu. J'espère qu'il me laissera, quand je serai au paradis. Quand venir en vacances, tout à haut de ma terre.
Une montagnère, un chanteur très très aimé dans la région avec cette chanson qui a été reprise d'ailleurs par Renaud. Les mineurs qui vont camper sur le terril, ça renvoie à toute cette mémoire. Et ce qui va être de la mémoire aussi, celle de ces entreprises qui ferment aujourd'hui comme Metal Europe, ce sera une mémoire amère. C'est dans ces mémoires-là que les avenirs les plus dangereux fermentent et macèrent les prochains 21 avril où on verra soudain un électorat comme ça de nous effrayer. Eh bien, c'est dans ces endroits-là qu'il se prépare, qu'il trouve ses racines. Et évidemment, ça date pas d'hier et ça va durer encore un certain temps. C'est cette guerre, c'est les éclopés de cette guerre avec qui nous sommes aujourd'hui et avec Christian.
J'ai mal au cœur. J'aurais presque les larmes. J'ai mal au cœur parce que j'ai donné la moitié de ma vie ici. J'ai tout fait ici. J'ai tout eu ici. L'usine, je peux dire que l'usine, elle m'a tout apporté. C'est vrai qu'elle m'a tout apporté. Même en étant gamin, j'étais déjà à l'usine parce que on allait en colonie de vacances. Qui c'est qui payait? Metal Europe, Penaroya, c'était à l'époque. Eh ben, mon père, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils travaillaient ici. Bon, ils connaissaient pas le Perron non plus. Mais j'ai toujours été avec l'usine. Ma vie, elle est dans le, j'ai 50 ans, ça fait 35 ans que je suis là, même plus que ça, puisque si je veux compter tout ça. Ben non, comment je vais te dire, je peux pas comparer ça à un père, mais pratiquement, tu vois, l'usine, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Et après, maintenant, je sais pas si je vais pas déclencher, hein, j'en sais rien ce que je vais devenir. J'en sais rien parce que ça fait trop mal. Et j'en veux pas à l'usine, j'en veux aux cons qui nous ont gouvernés. C'est à eux que j'en veux. C'est pas à l'usine parce que on sait faire, on sait travailler, on sait tout faire ici. On a tout fait ici. On a même des merdes. On a tout passé ici. On a tout fait. Bon, je suis malade. C'est comme si que les mecs ils étaient à la mine. Ben, tu me demandes à un mineur, c'est pareil. La mine, qu'est-ce que c'était pour lui? Ben, la mine, c'était tout. Ben, moi, c'est pareil. J'ai jamais rien demandé. J'ai jamais été porté plainte ou peu importe. Bon, j'étais en maladie professionnelle. J'aurais peut-être pu. J'en sais rien. Non, je voulais pas. Pourquoi? Parce que je suis bien ici. C'est pas mon rêve, mais c'est presque un idéal pour moi. C'était l'habitude, c'est comme ça, et puis c'est tout. J'ai mal. J'ai mal pour moi, et puis tous, quoi. Ça fait drôle, tu sais. Ça fait drôle. Hein. Déjà, quand t'arrives comme ça, maintenant, l'atmosphère, t'entends plus rien et tout, c'est terrible. Ça, ouais, ça, ça j'ai mal. Mais si tu veux y faire, tu peux rien faire. Même si bon, les éventuels repreneurs et tout, c'est de la fumisterie, c'est pas vrai. Je crois pas à tout ça. Tout. Bon, déjà, même s'il y aurait un repreneur, bon, nous ici, on est mort. Le plomb, ça n'existera plus jamais. Ça, c'est terminé, tout ça. Donc, s'il y a une restructuration qu'il fasse, ça sera peut-être le ZAG. Bon, j'y ai fait un petit stage, mais pas longtemps. Mais c'est pas pareil. Parce que dans l'usine, déjà, en plus, il y avait ça aussi dans l'usine. Dans l'usine, t'as deux usines. Ça a toujours existé.
Ceux du ZAG, ceux du plomb.
Mais la mentalité. Ça, c'était quelque chose de terrible. Tu pourras demander à tous ceux qui étaient ici, enfin, tous les jeunes ou n'importe lesquels. La mentalité du plomb et la mentalité du ZAG, c'était deux usines dans la même. Ils n'avaient pas du tout la même mentalité, je sais pas. Ben, directement, c'est à nous l'usine. Tu peux dire ce que tu veux. C'est, bon, on a quand même 35 ans que t'as donné dans ce bazar. Tu peux quand même croire que t'as quand même un tout petit morceau qui t'appartient, même si c'est pas vrai. Mais t'as un petit quelque chose à toi. Tu te dis, enfin, dans mon cœur personnel, je dis, bah, dans cette usine, il y a quand même quelque chose qui m'appartient. Je parle pas financier, hein, mais il y a un morceau qui que c'est à moi. Enfin, peu importe, tu vois, un truc comme ça. Et c'est ça qui fait mal, ça. Et alors savoir que ce bordel, tout ça, tout, il va être... Mais le jour que tout, il va être rasé, mais je sais pas. Je sais pas ce qui va m'arriver. Là. Je sais tant qu'elle est là. Bon, même maintenant, bah, je vais être au chômage, ou enfin, peu importe. Mais même, déjà, quand je passe à côté, ça fait mal. Tu sais, ça fait mal. Je passe sur l'autoroute, là, je vais en Belgique. Bon, je la vois de loin. Putain, du cheminé, là. Même en venant de vacances, on est arrivé à Arras. Bon, le péage est loin, hein. Tu arrives à Arras, tu passes un peu le péage, le premier pont, tu la vois, la cheminée de loin. Ben, en revenant de vacances, ben, on disait, ah ben, on rigolait, mais on disait, tiens, demain, regarde, elle est là, elle nous attend, elle fume. Voilà, maintenant, elle fumera plus, puis peut-être on la verra même plus, alors je sais pas. Ça fait mal. J'ai mal. Je suis pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Drôle de vie, tu sais. Je sais pas, il y a des gens qui ont eu le même tour que nous, mais bon... On a toujours pensé, des autres sociétés comme Usinor, des trucs comme ça qu'ils ont fermé, ils étaient quand même 6000, ça faisait quand même pire que nous, mais les gars qui ont travaillé comme ça, puis qu'ils avaient l'amour du métier comme on avait, enfin c'est vrai qu'on avait un amour propre, il fallait que ça tourne, il fallait que ça marche, il fallait faire un tas de trucs, on s'est décassé le cul, tout ce qu'on veut, on a sué, on s'est blessé, on a eu un tas de trucs, mais on revenait toujours, et puis je te dis, il y avait l'ambiance c'était bien. Au cimetière à Courcelles, tu t'es allé voir faire un petit tour seulement, et tu verras les plaques de Metal Europe, parce que ça, quand tu cassais ta pipe, il donnait encore une plaque à notre collaborateur, et c'était marqué soit Penaroya, soit Metal Europe. Ben, t'es allé voir combien là. T'es allé voir même tout le secteur là. Tu prends Courcelles, Noël et Vingt Malmaison. Les trois cimetières, tu peux aller jeter un œil. T'as qu'à voir combien il y en a là-dedans. Tu peux les compter. Ah ouais. Une plaque en marbre. Tu mettais. Non, mon père, il y en a une. Alors je sais quoi. Mon père est enterré à un endroit, et ben tout à droite et à gauche, tu peux regarder, tu te retournes, il y a que des anciens de Metal Europe. C'est tout des anciens. Alors c'est toujours notre cher collaborateur, machin, bazar, quoi. À l'économie, quoi.
Donc t'auras pas la tienne.
Ils en donnaient plus dernièrement. Ils avaient plus d'argent, se disant. Ils en donnaient plus. Ah, ils disent peut-être c'est pas parce qu'ils veulent plus en donner, c'est tellement qu'ils ont honte. Ils ont honte de faire voir ça.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de Thierry Scharf des 19 et 24 mars. Technique aujourd'hui Christian Thibaudot et Christophe Goudin. Répondeur Christophe Imbert. Musique Coyenne Guyenne. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Demain, on continue les best-of de là-bas si j'y suis. Ce sera un reportage de Dila Tebi sur les 4000 à la Courneuve. Il est 18h. Et c'est le moment du journal. Et c'est Agnès Bonfillon. Salut à tous.